TTIP, c'est A, on n'en veut pas.
TTIP, c'est A, on n'en veut pas.
Flashmob anti-TTIP, c'est A, à Esperanza.
Rendez-vous le dimanche 7 août à 17h20.
Au côté court, dans le camping festif
et dans le village possible.
TTIP, c'est ça, on n'en veut pas.
Des concerts à bolo, de la danse à gogo, Radio Esperanza.
Débat sur Radio Esperanza. Débat.
Les débats qu'on a réintitulés cette année de TTIP Horror Reality Show pour la thématique de l'année à Esperanza. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Et on va parler aujourd'hui de traités. Ah bah oui, évidemment. Mais ce coup-ci, on va parler de traités contre lesquels on ne s'est pas opposé, ou du moins pas tous. Pardon ? Voilà. Mais on va directement passer peut-être à la présentation. D'abord, bonjour Clarita qui nous a rejoint hier soir à Radio Esperanza.
Hello Déborah. Tout va bien ?
Tout va bien. Écoute, c'était dur de faire un débat sans toi hier.
Mais me voilà à la rescousse.
Et à le retour de la table, on a Michel Le Cermac du CNCD. Bonjour.
11-11-11, bonjour.
CNCD 11-11-11. Oui, pardon. CNCD 11-11-11. Ça devient trop long. Hein. Et puis, on a également problèmes. Camille du TTIP Game Over. Bonjour.
Bonjour.
Et de l'autre côté, Samuel du CNAPD, donc qui est la... Rappelle-le-moi parce que c'est...
La Coordination Nationale d'Action pour la Paix et la Démocratie.
Bonjour. Voilà. Bonjour à tous. Voilà, donc on est là pour une fois, pas spécialement parler du TTIP. Alors TTIP, CETA, TISA et tout ça, on n'en veut pas. Ce sont des traités de libre-échange nouvelle génération qui vont être signés entre l'Union européenne, enfin pas le TISA, enfin on va parler du TTIP, CETA, avec le Canada ou les États-Unis, où l'Europe se sent peut-être un peu en minorité, enfin le petit par rapport au grand. Alors que finalement, eh bien, des traités de libre-échange ont déjà été signés entre l'Europe et d'autres pays, et où là, on ne s'est pas opposé. Est-ce qu'on peut déjà donner quelques exemples, peut-être, de traités, d'accords qui ont été signés préalablement par l'Union européenne
entre l'Union européenne, la Colombie et le Pérou, par exemple. Ça, c'est un traité qui a été signé en 2013 et qui est en vigueur depuis lors, alors qu'il n'a même pas encore été ratifié par tous les parlements compétents en Belgique. Ou alors, y a une soixantaine de traités bilatérales, même entre la Belgique et... par exemple, le Rwanda, la Colombie, le Vietnam. Enfin, il y a toute une série de traités qui sont déjà en vigueur ou déjà signés. Mais heureusement, pour certains, pas encore en vigueur. Il est encore temps de les bloquer.
Et donc, moi, j'ai vu qu'en début 2014, il existait déjà près de 3300 accords bilatéraux sur l'investissement ou traités de libre-échange dans le monde, dont 1400 signés par des États membres de l'Union européenne. Donc c'est pas une nouveauté, hein, le TTIP, du coup.
Non, le TTIP, ce qui serait nouveau, justement, c'est que ça serait entre des pays riches et donc entre les deux plus grands blocs économiques du monde, l'Europe et les États-Unis, qui représentent ensemble la moitié de l'économie mondiale. Et donc, évidemment, ça a un impact encore plus énorme qu'un traité entre l'Europe et un pays en développement, entre lesquels les flux commerciaux aujourd'hui sont limités.
Dans le cadre, si on comparait par exemple donc les accords qui ont été conclus, qui sont un peu passés facilement comme ça, on s'est pas trop insurgé entre justement l'Union européenne et des pays en voie de développement. Ici, on s'insurge, on essaye de voilà, on fait des flash mobs, on fait un tas de trucs parce que est-ce qu'on se sent victime alors que l'Europe en elle-même a été, avant d'être victime, on était, j'ai envie de dire, le bourreau de certains pays en voie de développement. Maintenant, on est de l'autre côté du miroir.
Oui, malheureusement, il y a un phénomène comme ça. Évidemment, en tant que CNCD 1111, on est une organisation nord-sud et ça fait des années qu'on se mobilise contre les traités avec les pays en développement qui ont surtout un impact négatif sur ces pays en développement, plus que sur l'Europe. Et donc voilà, nous aujourd'hui, sur le TTIP, on tient à peu près le même discours qu'on tient depuis des décennies sur d'autres traités, sauf que pour une fois, on est un peu plus entendu et il y a un peu plus de mobilisation. Mais c'est clair qu'on se mobilisait déjà il y a 10 ans contre les accords de partenariat économique avec les pays Afrique, Caraïbes, Pacifique. On se mobilisait déjà contre les accords mondiaux négociés à l'OMC, sur lesquels il y a eu à un moment une mobilisation quand même assez importante aussi il y a 10 ans. Et heureusement, et ça a marché. Et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec le TTIP, c'est que les pays en développement au niveau mondial ont fait bloc. Contre les pays riches, on dit non, il y a toute une série de nouvelles formes de libéralisation des échanges qu'on ne va pas accepter. Et les États-Unis et l'Europe, plutôt que d'entendre cette voix, se sont dit, bah, vous savez quoi, on va vous prendre un par un. Et là, le rapport de force va être complètement différent. Et on va faire Europe-Colombie. Et tout de suite, on aura beaucoup plus de poids et beaucoup plus d'écoute et de force de persuasion, on va dire, auprès d'une série de pays. Et on va laisser les quelques pays, Afrique du Sud ou certains pays d'Amérique latine, par exemple, qui résistent et qui ne veulent pas, ben on va les laisser dans leur coin, on va négocier avec ceux qui veulent.
Au niveau de TTIP Game Over, vous êtes aussi penché sur ces autres traités
Alors, on s'est surtout penché sur... il y a TTIP, CETA et TISA. C'est là-dessus qu'on a commencé à se mobiliser, probablement simplement en tant qu'Européens. On s'est préoccupé de ces échanges au moment où on sentait que ça pouvait nous affecter, nous. Mais par ailleurs, c'est un modèle global de libre-échange qu'on remet en question et qu'on veut mettre en lumière aussi en disant, bon voilà, là ça nous atteint nous, mais par ailleurs il y a déjà énormément d'accords qui sont déjà passés, il y en a qui passent encore, qui sont moins connus et qui sont donc avec d'autres pays qui sont moins riches et donc plus vulnérables peut-être. Et donc c'est vraiment le modèle économique qu'il y a derrière qu'on remet en question vraiment.
D'assez d'APD. Comme ça on prend la vie de tout le monde. Tu peux même mettre le micro droit, enfin, sauf si t'aimes bien quand tout est en biais, mais...
Oui, bon, non, c'est bien comme ça aussi. Donc là c'est une APD, en fait la question c'est quoi? Est-ce qu'on s'est mobilisé contre des traités de libre-échange avant le TTIP? Oui. En fait oui, mais indirectement donc la CNAPD a continué à se mobiliser pour un autre modèle de société, puisque la CNAPD comme mouvement de la paix constate que les raisons des violences sont souvent issues du système de plus en plus dérégulé, et que si on veut arriver à un monde qui soit plus en paix et plus stable, il faut lutter contre la dérégulation du système économique. Donc à ce niveau-là, on s'est mobilisé, mais bon, c'est une mobilisation qui est secondaire, parce que nous, c'est pas notre thématique de travail direct, quoi. Là, en l'occurrence, avec le TTIP, disons que c'est notre législation qui va changer en interne, donc c'est une législation encore pire que celle qu'on a chez nous, qui voudra nous être imposée, et donc c'est en ça que la mobilisation est quelque part, à mon avis, plus facile au niveau de la population belge, puisque quand il s'agit d'aller imposer notre législation qu'on exerce déjà chez nous, voilà, ça pose un petit peu moins de problèmes aux citoyens, manifestement.
Donc on parle de dérégularisation des systèmes économiques par rapport à ces traités. Donc si on prend par exemple les APE, donc les accords de partenariat économique, qu'est-ce que ça a déjà entraîné comme effet négatif dans les pays du Sud? D'abord, c'est quoi les accords de partenariat économique?
Déjà, la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que même s'il n'y a pas toute la mobilisation qu'on voit aujourd'hui, et heureusement, contre le TTIP, contre les APE, il y a quand même eu pas mal de choses qui ont été faites. Et
c'était en 2013-2014
Le début de négociation d'APE date du début des années 2000, mais beaucoup de ces APE ont été, grâce à la pression citoyenne et à la mobilisation de certaines organisations, ont été quand même vachement vidés de leur contenu. Ils restent aujourd'hui très dangereux, mais ils ne sont pas du tout au niveau de ce qui était envisagé par l'Union européenne il y a 10 ans. Donc qu'est-ce que c'est? Ce sont des accords de libre-échange entre l'Union européenne, les pays dits ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, en gros les anciennes colonies de la plupart des pays européens, qui avaient jusque-là une espèce de statut privilégié où ils avaient accès au marché européen sans devoir en réciproque offrir un accès pour les produits européens à leur marché. Et un jour, l'OMC a décidé que ça ne va pas, il faut que l'échange soit libre dans tous les sens, et donc ces pays doivent, s'ils veulent avoir un accès au marché européen, doivent avoir un accès réciproque, offrir un accès réciproque aux produits européens, et donc négocier des APE. Je résume très très fort. Aujourd'hui, on voit qu'un pays comme, je pense que c'est le Sénégal, c'est tout simple, un tiers de son budget national, c'est des droits de douane. donc des taxes sur l'importation de pays essentiellement d'importation de produits essentiellement de produits européens. Donc si demain on a un APE qui amène les droits de douane à zéro, ça fait une bonne partie de ce tiers-là qui disparaît. Et donc là, on voit le lien directement avec les questions de budget public, de crise de la dette publique et éventuellement d'endettement, parce que si ces pays se retrouvent du jour au lendemain à avoir un tiers de budget en moins, ça fait soit un tiers de fric en moins pour des profs, des hôpitaux, des infrastructures publiques. Et donc soit on arrête, soit on coupe dans les budgets de services publics, soit on finance ça par la dette et donc on rentre dans le cycle de l'endettement avec tout ce qu'on connaît comme plan d'ajustement structurel, d'austérité, enfin tout ce qu'on connaît aujourd'hui en Europe, ce que les pays africains ont déjà connu et risquent de s'en reprendre encore une dose à cause de ce phénomène.
Et je me demandais justement à ce niveau-là, quand il y a des accords comme ceci, comme les APE, justement il y a des multinationales qui en fait sont peut-être déjà là-bas. J'ai envie de dire, quid les firmes transnationales. Mm-hmm. C'est on met cet accord-là en place, soi-disant pour équilibrer, les échanges. Mm-hmm. Équilibrer, c'est péjoratif. Mais finalement, c'est tout gain, tout le bénéfice est pour l'Europe. C'est jamais, puisque de toute façon, ils sont déjà là-bas. Les multinationales sont déjà là-bas. C'est l'OMC qui gère tout.
Oui, donc les multinationales sont déjà présentes dans pas mal de pays africains. Ce que ça va changer pour elles, c'est qu'elles vont pouvoir encore plus dans certains marchés où éventuellement il y a des élites économiques qui se développent et qui peuvent un petit peu consommer, ils vont pouvoir exporter les produits européens vers ces marchés encore plus facilement. Ils vont aussi pouvoir, par exemple, des multinationales comme Nestlé, par exemple, qui sont hyper présentes partout en Afrique et qui exportent déjà du lait en poudre, par exemple, massivement, ce qui décime complètement les éleveurs locaux qui produisent du lait local. Au Sénégal, on a beaucoup utilisé l'exemple des oignons qui étaient aussi exportés en masse depuis l'Union européenne. Il y a l'histoire des carcasses de poulet, voilà. Enfin, je veux dire, il y a plein d'images qu'on a réussi à faire passer quand même déjà pas mal dans l'opinion publique que c'est vrai que les surplus de l'agriculture, de l'agro-business européen risquent d'inonder encore plus si demain les APE sont signés ces marchés avec le peu de ce qui reste d'agriculture familiale locale qui permet quand même à l'essentiel de la population de survivre, hein, parce que c'est encore beaucoup des économies qui sont essentiellement agricoles, qui vont se retrouver simplement sans le sou. C'est ce qui s'est passé par exemple avec le NAFTA, l'accord nord-américain Canada, États-Unis, Mexique. C'est 4,9 millions de petits paysans mexicains qui, du jour au lendemain, ont dû mettre la clé sur la porte parce que simplement, ça devenait impossible de vendre leurs produits. Ils se retrouvaient avec des produits hyper subsidiés, hyper bon marché parce que basés sur des techniques agro-industrielles à grande échelle. Et donc, impossible à concurrencer avec des techniques paysannes locales à petite échelle.
Mais ces pays, on parlait du Sénégal, on a mentionné la Colombie. Dans quelle mesure ils seront obligés d'accepter ces accords-là ? On a l'air d'en parler comme si c'était logique qu'ils étaient... disons que c'est tout à fait compréhensible qu'ils vont y perdre. Alors pourquoi est-ce que c'est passé ? Ils ont peur de quoi ? Du coup, l'Union européenne va peut-être dire « Bah alors, nous, on n'importe plus rien chez vous, du coup, on ne paye plus rien en droits de douane, donc de toute façon, ça vous fait un tiers de budget en moins, comme on l'expliquait. » Voilà. Pourquoi ça nous semble tellement logique ? Bah, dans ce cas-là, on n'a qu'à refuser, mais c'est quand même, ça passe quand même.
Pourquoi l'Europe négocie le TTIP ? On n'y a pas intérêt non plus. C'est, je ne citerai pas ma source parce qu'il m'en voudrait, mais quelqu'un qui a travaillé des années à la Commission européenne m'a un jour dit si déjà on arrête de partir du principe que la plupart des dirigeants cherchent à servir l'intérêt de leur population, on comprend déjà mieux comment fonctionne le monde. Et donc, dans une série de pays, pas dans tous, mais dans une série de pays, c'est assez évident que c'est les intérêts économiques de certaines classes de la population qui sont défendus et pas du tout l'intérêt du plus grand nombre. Et certainement pas l'intérêt des petits paysans.
Oui, par contre, je pense qu'on peut ajouter à ça. Donc, clairement, il y a un intérêt plus individualiste à pratiquer ce genre d'échange. C'est parti d'une logique qu'on peut retrouver dans l'industrie de l'armement, par exemple. C'est exactement la même chose. Quelque part, parfois, il faut faire des guerres pour pouvoir aussi acheter des armes, ou en tout cas, construire un appareil sécuritaire pour pouvoir acheter chez nous. Mais on constate aussi au niveau de la population, via une propagande qui est un peu disséminée, comme ça, assez implicite, qu'il y a une certaine forme de consensus sur sur le principe économique qui veut que voilà, la loi du marché doit fonctionner et c'est ça qui va nous apporter plus de paix et le bonheur pour tous. Et donc je pense qu'en effet il y a des intérêts individuels, mais il y a aussi on arrive encore à faire passer des arguments qui pensent à faire croire que en fait tout ça c'est pour notre bien.
Oui, quand on lit l'explication des accords APE sur des sites officiels entre guillemets, c'est présenté comme c'est le beau, c'est le monde des bisounours, c'est-à-dire qu'on aide les pays en développement. C'est une aide, on leur permet d'exporter 1-2% de leur production chez nous, et voilà, en fait, on se rend compte que ces pays-là s'enrichissent, donc c'est bien, donc voilà, on se flatte. Alors qu'en fait, c'est... Et puis, enfin voilà, retournons la tortilla, comme on dit en espagnol. Bonne vieille expression. Voilà, on remet la tortilla dans le bon sens. Et ben non, ça va pas du tout. Voilà, les questions sont un peu naïves, hein, mais voilà, quelqu'un qui est naïf, justement, va dire, mais non, mais si c'est pour leur bien.
Mais c'est ça qu'on essaye, notamment à travers TTIP Game Over, de remettre en question ce modèle économique. Et un modèle aussi où on voit assez bien une collusion entre les lobbies, les multinationales et certaines institutions européennes, où on se demande de plus en plus où est la démocratie vraiment. Et je pense qu'il y en a qui sont vraiment de mauvaise foi dans la commission, etc. Et je pense qu'il y en a qui sont aussi vraiment de bonne foi, parce qu'il y a cette croyance en un modèle de croissance économique et que ça va amener de l'emploi, etc. Et il n'y a pas de remise en cause de qu'est-ce que c'est. Enfin, nous, on remet en cause le terme développement, par exemple. Qu'est-ce que c'est le développement ? Est-ce qu'on a vraiment la définition de ce que c'est ? Est-ce que c'est bénéfique, ce qu'on définit comme développement ou non, etc. Donc, et c'est vraiment une remise en cause du système économique tel qu'il est défini maintenant, et enfin, des notions de bonheur, effectivement, qui sont assez bien matérielles ou quoi. Et c'est beaucoup, mais et c'est à travers le TTIP, le CETA et l'OTISA où pour une fois, on est plus affecté, peut-être de manière négative, essayer de... Enfin, bon, il y a vraiment toute une mobilisation autour de ça, et donc essayer de profiter de ce moment pour remettre aussi ces questions sur la table. C'est qu'est-ce qu'on veut comme modèle de société ? Est-ce qu'on veut vraiment continuer sur cette route-là où l'économique a plein pouvoir ?
Oui. Après, juste peut-être, parce qu'on parle beaucoup du TISA, mais depuis hier, on parle énormément donc, du TTIP et du CETA, dont on a beaucoup expliqué. Le TISA, en fait, c'est un traité sur les accords entre les services, donc c'est Trade in Service Agreements. C'est la plus grande libéralisation du marché des services. Il y a près de 50 pays donc, qui sont en négociation sur le TISA, dont les États-Unis, on s'en doute, l'Union européenne, le Japon, Israël, mais pas la Chine. Voilà. Ça fait pratiquement 70% du commerce mondial des services, à savoir quasi 31 milliards de dollars. Et donc, ça couvre les services et ça fonctionne comme le TTIP. Donc, ces nouveaux accords de libre-échange fonctionnent sur un principe de coordination qu'on peut peut-être expliquer.
Oui, ben juste le TISA, en gros, c'est un des chapitres du TTIP et du CETA. Enfin, il y a un chapitre sur les services dans le TTIP et dans le CETA.
TISA... c'est pas signé à côté, c'est pas un accord.
C'est un autre accord, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un copier-coller à peu près d'un des chapitres du TTIP et du CETA, mais qui s'applique à 50 pays. Et donc, de nouveau, quand on dit le CETA, c'est le cheval de Troie du TTIP. Et éventuellement, si on arrive à bout du TTIP, mais qu'on se fait avoir par le CETA à côté, on n'aura pas gagné grand-chose. Pareil pour le TISA. Si on se retrouve avec 50 États, dont l'Union européenne, les États-Unis et le Canada, dans un accord multilatéral sur les investissements, enfin plurilatéral sur les investissements, on ne sera pas beaucoup plus avancé. Qu'est-ce que ça veut dire, un accord sur les services ? Concrètement, ça veut dire que tous les secteurs d'activité de service, c'est-à-dire à peu près 70% de l'économie, on est des économies de services, donc la grande distribution, les supermarchés, les services de financiers, toutes les banques, etc. Tout ça, c'est des activités de service, les services de transport, les services d'éducation, d'enseignement, vous voyez où je veux en venir, les services publics aussi, sont de facto libéralisés, c'est-à-dire ouverts à la concurrence avec des entreprises privées internationales, transnationales, sauf ceux qu'éventuellement on va mettre dans une liste d'exceptions. Et c'est là que le TTIP, le CETA et le TISA sont nouveaux. C'est vrai que dans les accords passés avec les pays en développement, en tout cas au niveau européen, on n'avait pas ce système-là. La nouveauté, c'est que tout est libéralisé, sauf. Et donc, dans le sauf, dans la façon dont on va écrire les exceptions, évidemment, ça devient super, super touchy. Je veux dire, les exceptions qui existaient déjà dans les accords passés pour l'exception culturelle, l'exception pour les services d'intérêt général, etc., si on remet les mêmes, avec la même phrase, les mêmes mots que dans les accords passés, ça n'a pas du tout la même signification, puisqu'on est dans un système où tout ce qui n'aura pas été clairement, explicitement inclus dans l'exception, est de facto libéralisé. Et donc, on se retrouve concrètement avec une incertitude juridique totale pour les services d'intérêt général. Par exemple, les mutualités. Tout à l'heure, on aura un débat ici à Speranza avec une représentante des mutualités belges qui nous disent, quand je lis le texte du CETA que nos dirigeants veulent signer en octobre prochain, les mutualités ne sont pas clairement protégées. Donc, concrètement, demain, une assurance privée canadienne pourrait débarquer sur le marché belge et dire « moi, je peux concurrencer l'assurance maladie universelle sur son terrain et ne servir, évidemment, en tant qu'entreprise privée à but lucratif, ne servir que les clients les plus rentables et laisser les autres mutualités qui, du coup, se retrouvent beaucoup moins financièrement viables puisqu'on leur enlève, entre guillemets, toute la partie lucrative et bénéficiaire du secteur et se retrouvent plus qu'avec les gens qui coûtent plus cher parce que plus vieux, plus malades, etc. Et donc, c'est le principe même de l'accès pour tous à la santé qui est menacé.
En sachant aussi que, enfin, pour conclure là-dessus, j'ai appris il n'y a pas longtemps que l'assurance complémentaire est obligatoire maintenant. C'est, donc après avoir vécu à l'étranger, je reviens, je me réinscris, je me réaffilie à une mutualité dont je ne citerai pas le nom. Et je me suis dit, je ne vais pas prendre la complémentaire. Je ne vois pas pourquoi je paierais, c'est complémentaire. Ouais. Donc en théorie, moi je reste... Et non, en fait, on m'a indiqué, c'est obligatoire. Donc je dois, c'est une trentaine d'euros tous les trois mois, je pense, quelque chose comme ça.
Oui, mais donc là, de nouveau, on est dans les méandres d'une espèce de système qui est déjà hybride, même sans le TTIP et même sans le CETA. On n'est plus dans l'accès universel à la santé qui est garanti pour tous, quels que soient les moyens qu'on a. On a déjà une partie du système qui est, entre guillemets, laissée à discrétion, on va dire, et donc qui rentre déjà plus dans une logique de marché.
Ouais, c'est une espèce de vide légal qui permet un peu de faire tout ce qu'on veut.
Voilà. Et ce qui est ennuyeux, c'est que un accord comme le CETA ou le TISA ou le TTIP ou tous les autres, si demain on se rend compte qu'on n'a pas bien écrit la liste des exceptions, qu'on n'avait pas bien vu la portée, etc., c'est juste impossible de revenir en arrière. Il faudra l'unanimité des 28 États européens pour mettre un terme à ce traité. Donc ça, on ne l'aura jamais, évidemment. Et donc, on se retrouve avec des gens qui nous expliquent « Oui, c'est vrai que c'est un nouveau système. C'est vrai qu'on ne sait pas exactement quelle est la portée, mais ratifions, on verra bien quand on l'applique. » Oui, mais sauf que là, il sera beaucoup trop tard, évidemment.
Déjà, il faut qu'il y ait d'accord. Enfin, moi, je reste optimiste. Voilà. Je suis optimiste cette année, c'est incroyable. Je reste optimiste en me disant que 28 États ne vont pas... être d'accord sur justement sur ces exceptions, sur que chacun est assez différent pour se dire on va pas signer.
J'espère. Pour l'instant, il y a un pays sur 28, un demi pays sur 28.
C'est la Belgique.
Qui dit non, c'est ça, c'est la Wallonie.
Oui, c'est ça.
Et c'est le résultat d'années de mobilisation, de pression, de travail, etc. Et ça, c'est vraiment chacun qui a mis sa pierre à l'édifice. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où le gouvernement wallon, tout seul, face à 27,5 États européens plus le Canada, dit non, pour nous, ce traité n'est pas acceptable, donc on refuse la signature. La Belgique ne peut pas signer. La cérémonie de signature qui est prévue en octobre, d'après ce qu'on nous dit, devrait être annulée si la Wallonie ne change pas d'avis. Et c'est pour ça aussi qu'on se mobilise et qu'on doit être des dizaines de milliers
sinon,
dans la rue le 20 septembre.
Un Brexit wallon. Voilà. La Wallonie sort de la communauté.
Je ne pense pas que ce soit la solution non plus. On va simplement sauver l'Europe, l'Europe qu'on veut en tout cas.
La Wallonie va sauver l'Europe. C'est incroyable.
Mais oui, mais c'est ça qui est en train de se passer.
Donc,
je veux dire,
restons optimistes, tu as raison.
L'Europe continue de se fourvoyer dans un modèle qui, le Brexit l'a montré, un modèle qui ne fonctionne pas. Et je pense pas que les gens qui ont voté pour le Brexit c'était des gens qui étaient contre le CETA ou le TTIP, c'est beaucoup plus compliqué.
Si, c'est pour ça, c'est ce qu'on a dit hier, ils ont voté le Brexit.
Non, par contre, beaucoup ont voté simplement parce qu'ils étaient contre, qui souscrivaient à des discours populistes qui fonctionnent beaucoup mieux dans des périodes d'inégalités criantes, inégalités qui sont la conséquence directe de ce modèle économique que le CETA et le TTIP vont renforcer. Donc là, le lien est direct et le CETA, je pense. Il y a un article qui est sorti hier disant il y a eu une petite fuite d'une discussion entre quelques officiels de la Commission européenne et des États membres, où la Commission dit c'est la mort de la politique commerciale européenne si le CETA ne passe pas. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne passera pas. Ce qui est triste à mourir, c'est de se rendre compte que ces gens ne sont pas capables juste de se mettre autour d'une table et d'écouter qu'en fait, on pourrait avoir une autre politique commerciale et que ce n'est pas CETA TTIP ou rien. On pourrait avoir une politique complètement différente. Et pour conclure là-dessus, parce que de la part des pays du Sud, on a aussi des très bonnes nouvelles qui nous arrivent. Un, l'Inde et l'Afrique du Sud ont commencé à systématiquement mettre fin à leur fameux accord de protection des investissements, les 3000 traités dont on parlait tout à l'heure. Les uns après les autres, l'Inde et l'Afrique du Sud sont en train de mettre un terme à tous leurs traités. L'Afrique du Sud a mis un terme à son traité avec la Belgique en 2012. Personne n'en a parlé, mais à ce moment-là, c'était dans le cadre de ce processus. Et tout ça pour mettre en place un autre modèle de politique d'investissement et de commerce. Autre avancée super intéressante, l'Équateur, l'Afrique du Sud et toute une série d'autres pays en développement ont mis sur la table des Nations Unies un projet de traité contraignant pour contraindre les entreprises multinationales à respecter les droits humains. C'est pas mal comme idée. Il y a eu un premier cycle de discussion en juillet 2015 et le prochain, c'est en octobre 2016. La Belgique, les États européens, les États-Unis et beaucoup d'autres pays riches boycottent activement ces discussions, ont voté contre le lancement de ces discussions, simplement ils ont été minorisés. Heureusement, au niveau mondial, on est encore tout petit, en fait. Et donc, au niveau des Nations Unies, ce truc continue. Et une des phases suivantes de la campagne Stop TTIP, en tout cas pour le CNCD 1111, ça va être de faire pression sur le gouvernement belge pour que, au minimum, ils aillent poser leur cul à cette table de négociation pour un traité contraignant entreprises et droits humains et qu'ils arrêtent de négocier cet autre traité, TTIP, CETA et tout le bazar, dont le seul objectif est de donner plus de droits aux multinationales. Entre les droits des multinationales et les droits humains, en tout cas, du côté du CNCD, on a choisi.
Le choix est fait, quoi.
Je voulais juste, avant qu'on passe à la pause musicale, parce que tant qu'on parle du TTIP, TTIP, tout ce qu'on veut, moi j'ai un peu l'impression, et pour avoir parlé avec certains Français, mobilisation contre le TTIP CETA a été est fort prenant, est assez grande en Belgique, alors que dans les autres pays, il n'y a pas tellement de mobilisation, en fait.
On a l'impression qu'on entend parler de ça beaucoup chez nous.
On a beaucoup de Français, en fait, à côté, et disent c'est dingue ce qui se passe chez vous, parce qu'en France, il y a beaucoup moins de mobilisation contre les... À Paris, par exemple, Lisette a dit vraiment... il y a beaucoup moins de... Et Fox peut peut-être aussi...
Je suis pas sûre que les Allemands seraient d'accord.
Non, les Allemands, non, mais c'est parce que ici, c'est une discussion qu'on a eue il y a 2 jours, quoi, et où elle disait, moi, ça m'étonne qu'il y ait une telle mobilisation en Belgique comparée à la France, qui est beaucoup plus grande et qui, d'habitude...
Je pense qu'en termes de mobilisation, en France, il y a aussi eu un gros moment loi travail et que peut-être qu'on peut pas être partout même si c'est lié, et peut-être que en Belgique simplement on a été quand même un petit peu moins mobilisé par rapport à cette loi travail, etc. On lit ça dans les mobilisations anti-TTIP, anti-CETA, etc. Mais par ailleurs, il y a la France. L'Allemagne, c'est quand même un exemple où là, la mobilisation fonctionne assez bien.
Il y a une manifestation de 250 000 personnes.
En octobre dernier, c'était 250 000 à Berlin et ils visent plus de 300 000 le 17 octobre prochain, donc 3 jours avant la grosse manif du 20 septembre à Bruxelles. Et les copains allemands, en plus, ont été très sympathiques. La mobilisation qui était prévue sur 7 villes en Allemagne de manière décentralisée, c'est devenu 7 plus 1. Et le plus 1, c'est Bruxelles. Donc on va en plus avoir quelques copains allemands qui vont grossir en Bruxelles.
Par ailleurs, je pense qu'il y a aussi des mouvements ailleurs, là où j'entendais qu'il y avait eu un sondage en Irlande sur les 74% des citoyens qui veulent un référendum sur le CETA et le TTIP aussi, je pense. Mm-hmm. Donc, peut-être qu'on l'entend moins, mais c'est présent et ça bouge. Je pense qu'il y a beaucoup, d'un coup, ça prend dans d'autres pays aussi.
En 2015, il y avait 10 000 à Amsterdam. Il y a des trucs qui sont en train de se préparer pour Luxembourg en octobre, pour Bratislava. Le grand sommet des 18 ministres du commerce qui vont décider du futur du CETA, c'est le 22 septembre à Bratislava. Il y a des mobilisations qui sont en train de se préparer, même à Bratislava, alors que c'est pas le pays où on a le plus de mobilisations jusqu'à présent. C'est en Slovaquie.
Et à Barcelone, il me semble que la maire, la maire, M-A-I-R-E, ouais, la bourgmestre de Barcelone, qui d'ailleurs est issue de, indirectement du mouvement, oui, voilà, Podemos, du mouvement du 15 mai, voilà, avait déclaré que Barcelone s'était déclarée comme ville anti-TTIP.
Oui, donc il y a 1800 villes hors TTIP à travers l'Europe, enfin voilà, il y a plein d'exemples qui montrent que c'est de plus en plus développé. Si vous regardez la carte d'Europe des villes et régions TTIP, vous voyez qu'en France, il y a plein de départements. Voilà, les formes sont différentes, mais la mobilisation est là.
Fox, qui est derrière la console, mais qui a plein de choses à dire aussi.
Oui, bah, pas beaucoup, mais moi je suis d'accord avec vous sur le fait qu'effectivement il y a d'autres formes de mobilisation et d'engagement liées à ces thématiques-là. Et il faut aussi remettre en perspective par rapport à l'actualité, dont notamment la loi travail, et aussi d'autres choses qui font que la sécurité est renforcée, que les réunions, les manifestations ont beaucoup plus de difficultés à se mettre en place. Et donc effectivement, moi par exemple, je suis aussi en Bretagne et on voit des groupes de recherche, en tout cas des moments d'échange qui se mettent en place en dehors de Paris, parce que justement à Paris ça devient très très compliqué dans les grandes villes aussi de créer une mobilisation, quoi.
C'était peut-être pour ça. Merci Fox. On peut peut-être passer un petit morceau de musique, histoire de respirer, d'ouvrir un peu la fenêtre et puis de la refermer pour continuer.
All the people.
Nous revoilà donc en direct du studio de Radio Esperanza. Et donc justement, Fox, qui était à la technique, avait une question relativement pertinente, je trouvais, par rapport au TTIP. Fox, tu veux la poser toi-même ?
Ah bah, posons sur la table alors cette question. Parce que je me dis que bah là, depuis que je suis arrivé à Esperanza, et même avant, j'ai entendu parler du TTIP avec beaucoup de choses, tout le monde me dit ouais c'est mal, il faut pas. On dit beaucoup de mal de ces choses-là, mais je me dis peut-être au fond il y aurait peut-être des points un peu positifs sur ces accords. Et du coup j'ai lancé la question hors antenne. Effectivement, je vous laisse répondre du coup.
Rends-moi ton bracelet, tu sors.
Ah, j'ai pas dit que c'était positif.
Non, je pense que
là,
c'était.
Ça paraît naïf comme ça, mais c'est vrai que le débat qui a eu lieu juste avant, enfin le débat, la question qui a eu lieu hors antenne était relativement intéressante, justement par rapport à cette question très naïve de. Bah, c'est sûr que tout est 100% mauvais.
Mais. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que quand on entend, enfin, je disais tout à l'heure, à la DG Commerce de la Commission européenne, aujourd'hui, ils disent, oh là là, si jamais on refuse le CETA, la politique commerciale est morte. Non, en fait, non. Quand on entend par ailleurs les mêmes dire que c'est une manière de contrer l'émergence de la Chine, par exemple, le TTIP, oui, ça pourrait être intéressant, pas de contrer, mais de se dire que les zones qui, aujourd'hui, malgré tous leurs défauts, sont parmi les moins arriérés, on va dire, en termes de, par exemple, de droit du travail, en matière de normes environnementales, par exemple. Malheureusement, l'Union européenne et les États-Unis font partie des moins mauvais, en tout cas l'Union européenne en la matière. On pourrait se dire qu'on pourrait avoir des accords qui sont basés sur quelque chose de très différent et de se dire, par exemple, je donne l'exemple de Caterpillar, une usine en Belgique qui ferme pour aller produire des machines moins chères en Inde, pas tellement pour le coût du travail, mais surtout parce que les normes environnementales dans la production sont moins élevées. On se dit que là, les normes environnementales européennes deviennent une balle dans le pied qu'on se tire. Pourquoi est-ce qu'on ne se dirait pas qu'on fixe un minimum de normes environnementales et sociales à respecter pour tous les pays qui rentrent sur le marché européen? Simplement que pour pouvoir rentrer sur le marché européen, il faut respecter un minimum de normes humaines, sociales et environnementales. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est complètement faisable. En fait, c'est un peu le débat qu'on aura cet après-midi aussi sur Esperanza. On va avoir un débat sur TTIP et alternatives. C'est quoi les alternatives au TTIP? C'est une politique commerciale qui est mise au service de l'humain. C'est pas fermer les frontières à tous les produits qui rentrent. C'est juste se dire, si c'est fait dans des conditions inhumaines ou polluantes, ça rentre pas sur le marché américain ou le marché européen. On n'a pas accès aux 800 millions de consommateurs ou même aux 500 millions de consommateurs européens. Tout seul, déjà, l'Union européenne, c'est le plus grand marché de consommation du monde. On pourrait peut-être se dire que ces consommateurs, collectivement, ils n'ont pas envie d'avoir le choix entre un t-shirt qui est fait par un gosse ou un t-shirt qui est fait dans des conditions correctes.
Mais alors, est-ce qu'on ne pourrait pas se dire que ces fameux traités peuvent finalement, par exemple, augmenter les normes environnementales en se disant, tiens, ben voilà, les normes environnementales aux États-Unis sont beaucoup moins élevées qu'en Europe et qu'un traité comme le TTIP va justement faire augmenter les normes, enfin les conditions, et plutôt que du contraire, quoi. Parce que voilà, on dit toujours, on va se choper du poulet au chlore et à ras-le-bol de cet exemple-là, je suis tout à fait d'accord. Mais voilà, mais on pourrait peut-être justement se dire que c'est dans d'autres sens que ça va se passer.
Oui, moi j'ai envie de dire que c'est pas nécessaire de passer par des mécanismes comme le TTIP ou le TISA ou autre pour faire ce genre de traité, puisqu'il y a des institutions internationales, multilatérales et universelles, ou en tout cas à visée universelle, qui ont vocation à être les enceintes pour mettre au pied ce genre de traité. Donc je suis désolé, il faut que je dise encore un truc négatif sur le TTIP, mais le problème, c'est que
pas de souci.
ça empêche, ça freine et ça pose des obstacles à la négociation réellement multilatérale pour que les normes les plus hautes soient appliquées au monde entier et pas nécessairement entre pays qui ont envie de le faire, quoi.
Ah oui, donc c'est pas gagné.
Non, c'est pas gagné.
Non, mais
déjà, changer le TTIP pour en faire quelque chose de positif, c'est pas gagné. Non.
Moi, j'aurais pas d'obstacle intellectuel de principe à ce que deux zones, que ce soit les États-Unis et l'Europe, ou deux autres zones dans le monde, se disent « Ok, nous, on est les plus avancés sur tel sujet, par exemple sur la lutte contre les changements climatiques, et donc on va faire un accord qui va plus loin que le plus petit dénominateur commun de tous les pays du monde. Et comme ça, on va essayer de tirer un peu la locomotive et de donner l'exemple. » Pourquoi pas? Je veux dire, il y a des pays qui ont aboli le travail des enfants ou l'esclavage avant d'autres, en se disant « Voilà, ben, c'est peut-être un désavantage économique, mais ça a d'autres avantages, et donc on avance. Sur le principe, moi, j'aurais pas de problème avec ça. Simplement, ce qui est insupportable, c'est que quand on écoute la Commission européenne, d'après eux, c'est ça, le TTIP. Sauf que c'est nulle part dans le texte. Et c'est nulle part dans les textes du mandat, enfin, dans tous les textes qu'on a. C'est écrit nulle part noir sur blanc, mais on essaie de nous expliquer que c'est quand même ça, le but. Oui, à un moment, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons, quoi. Et c'est voilà. Ça qui est insupportable. c'est vraiment une rhétorique. C'est intéressant parce que, donc, en 2014, on a eu des élections européennes, on a une nouvelle Commission européenne, et donc, on avait le bon vieux Carole de Gucht, qui au moins disait les choses comme elles étaient, et disait clairement que c'était un traité qui était pour le business et que pour le business.
Bien sûr.
Maintenant, on a une nouvelle commissaire suédoise, Madame Malmström, qui est très sympathique, qui est très souriante, et qui nous explique, qui a une rhétorique qui est formidable pour nous expliquer que ces accords, ça va être parfait pour les travailleurs, pour la culture, enfin pour plein de choses.
J'ai un son de Cecilia Malmström, qui, il est pourri le son, je vous préviens. Il y a des blancs énormes dans le, c'est pas moi qui l'ai interviewé, j'ai chopé ça sur YouTube, tout à fait illégalement. Et donc il y a des grands blancs dedans. Mais moi, quand j'ai écouté ça, en fait, j'avais tendance à rire et à me demander si c'était pas une parodie. Et c'était pas une parodie. On peut peut-être le passer si ça vous va. Oui.
Et puis je vous laisse les micros ouverts comme ça si vous voulez commenter.
En même temps, oui, parce qu'il y a des gros blancs.
Eh ben, c'est parti.
D'ailleurs, ça commence par un blanc.
Voilà, le son est lancé.
C'est des négociations très importantes. Ce sont les plus grandes économies mondiales, l'Europe et les États-Unis. Si nous pouvons faciliter davantage le commerce entre nous, ça peut créer des millions de travail, ça peut créer plus de croissance et d'investissement. Et nous pouvons mettre des normes globales en ce qui concerne environnement, consommation, sécurité, etc., qui peuvent être utilisées dans les négociations globales.
Ça, premier blanc.
Ça, c'est formidable, parce que donc, des normes globales, par exemple, en matière de travail, ça existe, ça se passe à l'OIT.
Nous avons besoin de croissance en Europe, nous avons besoin de travail. Mais la France est un pays qui va gagner beaucoup sur le TTIP. C'est une opportunité pour la France pour vendre davantage de ses produits aux États-Unis. Par exemple, le fromage, le vin, le chocolat, les pneus, les médicaments, les voitures, la ferroviaire, où la France est forte. Et où il existe aujourd'hui des taxes, des impôts et des obstacles bureaucratiques entre la France et les États-Unis. Par exemple, il faut faire deux crash tests pour les voitures, l'européen et l'américain. Les deux sont sûrs, mais si on peut trouver une manière de reconnaître une, on évitera ça. Ou les huîtres, les Américains testent les os, où vivent les huîtres, nous testons la chair. Donc si on peut faire un test seulement, nous pouvons éviter beaucoup de bureaucratie, beaucoup de coûts, et c'est seulement deux exemples.
On pourrait manger plein d'huîtres.
Voilà un truc positif sur le TTIP.
Elles sont bonnes.
Mais c'est vrai en plus.
La Commission a très vite décidé qu'il faut plus de transparence dans ces négociations. Ils sont déjà assez transparents, il y a un site web où il y a beaucoup de documents, nous avons un comité de conseil, nous consultons souvent, après chaque ronde de négociation, nous partageons les résultats avec le Parlement européen, avec ce comité, avec les États membres. Mais nous avons décidé de donner accès au Parlement européen à tous les documents et aussi de mettre plus de documents, les documents que nous donnons aux Américains sous nos positions, de les mettre sur notre site internet pour que tout le monde puisse consulter et pour voir ce qu'il y a et ce qu'il n'y a pas dans les négociations pour démystifier un peu les inquiétudes.
Ça, c'est assez drôle parce que récemment, il y a eu une fuite et la réaction qu'ils ont eue, c'était de contrôler encore plus les parlementaires qui font partie des négociations pour qu'ils ne puissent pas donner des documents à d'autres personnes.
Okay.
Oui, et puis en matière de transparence, il faut quand même préciser, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, les autres accords. La négociation en cours entre l'Union européenne et la Tunisie, le TISA par exemple, tous ces documents de négociation, ils sont où? Ils sont toujours secrets, hein, donc il n'y a que sur le TTIP qu'on fait, voilà, il y a de la pression, alors on va vous inonder de papier, là il y a des centaines et des centaines de pages, effectivement, qui sont disponibles. En général, trois mois après qu'ils aient été périmés et qu'il y ait des nouveaux documents qui soient disponibles, mais qui eux sont secrets.
Oui, mais de toute façon, même si c'est ce qu'ils disent, ce qui est public, c'est des centaines et des centaines de pages dans un jargon que de toute façon, qui est indigeste, quoi, il faut vraiment le vouloir pour le lire.
Oui,
t'étais attelé, toi, je pense, à lire le truc de 100 pages, là.
Je me suis amusé à lire les 1600 pages du CETA
1600,
en diagonale, mais c'est voilà, bon, c'est bon, j'ai la chance d'être payé pour ça, mais c'est formidable, c'est passionnant, mais voilà, non, on a des gens qui savent comprendre ce langage, mais c'est vrai que c'est impossible à suivre quand on a comme ça des dizaines de pages qui sortent toutes les deux semaines, et de nouveau on a envie de se dire mais les gens, les fonctionnaires de la Commission européenne, les fonctionnaires des 28 États membres qui passent leur journée à négocier ce truc, merde quoi, ils pourraient faire autre chose de leur journée qui serait vachement plus utile. Enfin, de nouveau, ce traité, il est toujours pas prouvé, contrairement à ce que dit Mme Malmström dans l'extrait, il est toujours pas prouvé que ce truc va créer un seul job. Si on prend le seul précédent historique comparable, c'est le NAFTA, ça a détruit 700 000 emplois aux États-Unis. Enfin, c'est surréaliste de se dire qu'il y a de l'argent public qui va à ces négociations qui ne vont servir que les intérêts de quelques grandes multinationales qui vont simplement pouvoir encore plus mettre leur grosse patte dans le processus législatif pour, soyons clairs, le seul et unique objectif, c'est un truc qui est écrit noir sur blanc dans un courrier de Business Europe, c'est coécrire les lois. Mm-mm. C'est ça leur objectif.
Je crois que tu vas revenir demain pour le débat, parce que demain c'est TTIP vers la fin des États. Ou de la souveraineté des États.
Ben, c'est ça l'objectif, ouais.
Ben ça ressemble, hein, ça y ressemble beaucoup. Tout pour la croissance économique. À croire qu'il n'y a plus que ça qui compte aujourd'hui, c'est la croissance. Donc l'apport de richesse. On en oublie justement toutes ces normes de, c'est bah, tout ce qu'on a comme on dit toujours, on a une superbe sécurité sociale. Mais on va perdre finalement avec des traités pareils. C'est l'économie qui gère le monde aujourd'hui. C'est toujours plus de croissance pour finalement arriver à une perte du monde. Enfin
toujours plus de croissance. 0,05% de croissance dans le meilleur des scénarios, le plus ambitieux, le plus optimiste.
Oui, mais quand
ils entendent,
c'est ça, c'est créer plus de croissance.
Ça fait partie de la fable. Hein. Je veux dire, la croissance en Europe ne reviendra pas, c'est TTIP ou pas TTIP. Donc ça, c'est un autre chapitre qui vaudrait la peine d'être ouvert, mais on n'a pas le temps aujourd'hui. C'est qu'il y a des vraies solutions pour créer de l'emploi, la semaine de 4 jours, l'investissement massif dans les infrastructures et dans la lutte contre le changement climatique. Il y a moyen de créer des millions d'emplois en Europe. Avec
oui, mais ça ramasse pas, oui.
Mais effectivement, les gens qui vont bénéficier du TTIP ne sont pas ceux qui ont intérêt à ça.
C'est mieux.
Oui, en fait, j'étais en train de penser à quelque chose. Les investissements publics, Michel vient de le dire, que ça pourrait créer énormément d'emplois. Et je pensais en même temps au fait que la Wallonie, apparemment, était encore le dernier village qui résistait à l'envahisseur.
C'est une bastion.
Moi, j'aime croire à cette fable, mais je suis pas de nature optimiste, donc je l'ai entendu, on verra. Mais ce que je voulais dire, c'est que donc la Wallonie aussi, elle a accepté, et à ce moment-là, c'était d'autres partis qui étaient au pouvoir, enfin certains les mêmes, mais un petit peu d'autres, qui ont accepté de voter le traité d'austérité budgétaire. Ça veut dire que maintenant, dans l'Union européenne, les investissements publics, ils sont vachement limités, si pas quasiment impossibles. Donc, mais on en revient toujours à la volonté, et je pense qu'il y a moyen de casser ce traité-là aussi, qui est extrêmement mortifère justement en termes de protection des travailleurs, mais aussi de création d'emplois. Par contre, il y a quand même de la volonté politique, puisque en dehors du traité, on arrive à négocier des passe-droits pour la sécurité, lutter contre le terrorisme, tout ça, ça nous permet de dépasser les cadres budgétaires fixés par l'Union européenne, et aussi des avions de chasse qu'on va acheter dans pas longtemps pour 15 milliards, qui sont clairement en dehors de tout cadre budgétaire européen. Donc voilà, quand il y a de la volonté, c'est vrai qu'en effet, on peut faire beaucoup de choses.
Alors c'est marrant, parce qu'en tant que citoyen, quand on écoute tout ça, quand on se renseigne sur tout ça, on se dit que on a quand même franchement des hommes politiques assez
et de femmes,
ça y est.
Ce sont des politiciens.
C'est le CNCD 11-11-11.
Donc, des hommes et des femmes politiques, bien entendu, ou des femmes et des hommes politiques, qui sont un peu déconnectés de la réalité et qui finalement prennent les mauvaises décisions. Enfin, on a l'impression qu'il n'y a rien de cohérent dans ce qu'ils font, du coup.
C'est pour ça que quelqu'un comme Mme Malmström, quand elle parle, je pense qu'elle y croit à moitié, mais elle s'accroche à des arguments qui sont finalement totalement défendables. C'est vrai, pourquoi aller tester deux fois l'eau d'une huître ou faire deux crash tests qui sont les mêmes pour une voiture, c'est vrai. Donc je pense que ces gens-là, pour se protéger eux-mêmes, se raccrochent à des exemples comme ça et parviennent manifestement quand même encore un petit peu à croire que ça va nous amener vers plus de croissance et donc plus de bonheur.
Ouais, donc la croissance égale le bonheur. Ouais. Vous êtes d'accord avec ça, évidemment?
Oui, tout à fait.
La croissance du bonheur, le bonheur de la croissance.
pas bête.
Mais Madame Malmström, moi j'en suis intimement persuadé, elle s'en fout complètement du TTIP. Ça se voit quand elle en parle. Et quand on... J'ai aussi, en plus des 1600 pages, j'ai dû me taper quand même quelques-uns de ses discours. C'est tout le temps les mêmes, c'est tout le temps les mêmes... incantations du retour de la croissance avec très très peu de substance. On voit qu'elle lit ses fiches, qu'elle connaît bien ses fiches. Quand on lui pose une question qui sort de ses fiches, et on commence à les connaître par cœur, donc on sait poser des questions qui en sortent, elle répète simplement en boucle comme un perroquet ce qu'on lui a dit de dire. C'est quelqu'un
un peu comme le guide de l'abbaye de Floreff.
Peut-être. Elle voulait, en gros, elle voulait être commissaire européenne. Elle s'est chopée le commerce. Elle aurait pu choper autre chose. Elle s'en fout. Et donc ça se sent très très fort dans sa façon d'agir. Et le jour où le TTIP sera par terre, parce que on va en venir à bout, ça, j'en suis persuadé.
On voit Camille. Elle pense. Elle est loin.
Je pense qu'elle versera pas une larme. Quoi. Elle s'en fout complètement. C'est un objectif politique comme un autre. Et voilà. Par contre, je crois que De Gucht, il va mal le vivre. Mais De Gucht, c'est son bébé, le TTIP. Ça, c'était son... Et d'ailleurs, j'ai entendu de sources sûres que je tairais à la DG Commerce. Tout le monde déteste De Gucht aujourd'hui. Parce qu'ils négociaient justement leurs petits accords dans leur coin avec des pays en développement. Tout le monde s'en foutait. Et puis le TTIP est arrivé et tout le monde a commencé à les emmerder. Et ils se retrouvent avec des gens qui viennent faire des casseroles sous leur fenêtre. Je ne citerai personne.
Je ne sais pas du tout de quoi on parle.
Non, mais c'est génial. La mobilisation qu'on a aujourd'hui contre le TTIP, c'est juste énorme. Je trouve que le thème d'Esperanza est quand même assez bien dans le panneau. Quoi. C'est ça le problème aujourd'hui. C'est le TTIP, c'est ces politiques-là. Et on commence aujourd'hui à avoir des mobilisations qui visent exactement là où ça fait mal. Et on voit... J'entendais le fameux article sur Monsieur De Marti qui considère que la politique commerciale est morte si le CETA ne passe pas. Il y avait un commentaire sur le fait que ça reflétait très très bien son attitude du moment. Monsieur est quand même à la tête de la DG Commerce de la Commission européenne. Et apparemment, le mec, quel était le mot ? Il est helpless. Il est perdu, quoi. Il est complètement paumé. Il ne sait plus comment il s'appelle. Ils savent pas ce qui leur arrive, quoi. Ils sont en train de se planter. Et c'est vrai que la politique commerciale européenne telle qu'on l'a connue jusqu'à présent, elle est morte. Et c'est grâce à nous.
Allez, bravo.
Collectivement.
Et là-dessus, il est temps déjà de clôturer ce débat, ce TTIP Euro Reality Show. Merci à Michel, Camille et Samuel. Merci à Fox à la technique. Et merci Clarita.
Merci à toi, Déborah.
On se retrouve tout à l'heure à 19h30 pour le débat du village avec Antoine Deltour et David Leloup. Et là, on parlera d'évasion fiscale.
Super.
Voilà, bah, merci à vous. Belle après-midi.
Merci.
Et soyez des milliers de Esperanza, c'est propre.
On peut dire ce qu'on veut, et surtout de la spontanéité.
Radio Esperanza.